Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'essence de la foi chrétienne consiste dans la connaissance et l'adoration du Dieu unique en trois personnes. C'est de ce mystère que découlent tous les autres mystères de notre religion. C'est donc de ce mystère que notre foi doit d'abord se nourrir ici-bas, en attendant que sa vision nous ravisse dans l'éternité. Ce mystère, c'est Jésus-Christ qui nous l'a révélé. L'intelligence humaine était totalement incapable de le concevoir. Et l'Ancien Testament lui-même n'a fait que l'insinuer. Il a fallu attendre que le Verbe se fît chair et vint habiter parmi nous pour nous faire connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu unique en trois personnes. Et depuis, l'Église n'a pas assez de mots, de chants, de formules pour redire, pour chanter la gloire de la très sainte Trinité. Pour comprendre une vérité, surtout s'il s'agit d'une vérité importante, il est bon de considérer les efforts déployés par l'ennemi pour détruire cette vérité. Or, ce mystère de la Sainte Trinité est si important, si fondamental, que le diable a suscité contre lui, au IVe siècle, ce qui fut peut-être la plus grande hérésie de l'histoire de l'Église, en tout cas la première grande hérésie. La plus importante, pourquoi ? Parce qu'elle s'attaquait directement à Dieu lui-même, Dieu dans son essence même. Cette hérésie, vous en connaissez le nom, c'est l'arianisme. L'arianisme domina tout l'Orient pendant près de 70 ans et gagna même l'Occident, d'où elle passa à la plupart des peuples barbares qui envahirent l'Empire romain au Ve siècle. Ce fut au point que saint Jérôme a pu écrire, à la fin du IVe siècle, « Le monde entier gémit, stupéfait de se réveiller à rien ». On n'imagine pas la gravité de cette crise. La nôtre est analogue d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est important de méditer quelques instants cette crise de l'arianisme. Arius était un prêtre d'Alexandrie, dialecticien subtil, doué d'un extérieur imposant, mais très orgueilleux. Il savait s'insinuer dans les âmes par une parole persuasive et même des moyens originaux. On pourrait même qualifier ces moyens de modernes. Pour répandre ses idées, il avait composé un ouvrage populaire qu'il avait intitulé « La Thalie », c'est-à-dire « Le banquet », et c'était un mélange de prose, de vers et même de chansons. Et en faisant chanter les fidèles, eh bien, il inculquait, il insinuait, il diffusait dans leur âme l'erreur. Alors, quelles étaient ces idées d'Arius ? On peut les résumer d'un mot. Notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu. Dieu est unique et donc il ne peut y avoir de communication de sa substance. Le Verbe n'est donc pas engendré, il est créé, c'est une créature. Il est un intermédiaire entre Dieu et le monde, antérieur au temps sans doute, mais non éternel. Cette erreur d'Arius, qui visait, donc vous le voyez, le Fils de Dieu, fut étendue après lui au Saint-Esprit par des hérétiques qui ont pris la succession de l'arianisme et qu'on appela les pneumatomaques, un nom un petit peu barbare, ou encore on les a appelés les Macédoniens, c'est-à-dire qu'ils appliquaient au Saint-Esprit la même erreur que Arius avait appliquée au Fils de Dieu. Le Saint-Esprit n'était pas Dieu. Vous voyez que ces négations de la divinité du Verbe puis du Saint-Esprit étaient autant de négations de la Sainte Trinité. C'était gravissime. Arius a été condamné au concile de Nicée en 325, le premier grand concile œcuménique de l'Église. Ce concile déclara que le Fils de Dieu est consubstantiel au Père. C'est ce concile qui a forgé ce mot, homo ousios, de substance identique. Et c'est ce que nous chantons chaque dimanche dans le credo, nous allons le chanter dans un instant, ce credo qu'on appelle précisément le symbole de Nicée-Constantinople, parce que ces articles ont été formulés au cours des deux premiers conciles œcuméniques, le concile de Nicée en 325 et le concile de Constantinople en 381, qui a étendu au Saint-Esprit ce que Nicée avait dit du Fils de Dieu. Mais Nicée n'a pas suffi pour vaincre l'arianisme. L'arianisme s'est développé de manière considérable au lendemain du concile de Nicée, encouragé par des évêques, et ce n'est pas nouveau, notamment l'évêque Eusèbe de Nicomédie, qui était un des plus importants de la chrétienté, un des plus importants d'Orient, et qui devint même bientôt patriarche de Constantinople. Alors, sous l'influence de ces gens-là, l'arianisme se propagea partout, malgré la mort d'Arius, qui était mort assez rapidement après le concile. Les Ariens étaient très puissants, ils avaient des appuis à la cour, auprès de l'empereur, l'empereur Constance, un des fils de Constantin le Grand. Et les Ariens multiplièrent les conciles, on devrait dire plutôt les conciliabules, dans lesquels ils faisaient condamner et exiler les prélats fidèles à la foi de Nicée. Ils intimidaient les catholiques, et ça réussissait. Ce qu'ils reprochaient aux consubstantiels, c'était d'être un terme forgé par les docteurs de Nicée. On retrouvera la même chose au concile de Trente. Les opposants du concile de Trente ont reproché au concile de Trente d'avoir forgé le mot « transubstantiation ». Et les modernistes diront la même chose après eux. On ne trouve pas, en effet, le mot consubstantiel dans l'Écriture. C'est un mot qui a été forgé par les théologiens pour exprimer exactement la foi de l'Église. Très rapidement, les Ariens se divisèrent en factions qui chacune produisit une véritable foison de formules de foi, plus ou moins contradictoires, changeantes, équivoques. C'est là un phénomène habituel. Alors que la vérité ne connaît qu'une seule formule, définitivement fixée, l'erreur, elle, a toujours besoin de se renouveler, de changer, de s'adapter, d'évoluer. Et on constate exactement cela aujourd'hui. Le modernisme, c'est la même chose. Le modernisme est évolutif. La foi doit évoluer. Alors, on distingue trois grandes factions ariennes. Et là encore, l'évocation de ces choses est intéressante pour notre époque. Il y avait d'abord les Ariens purs et durs, des doctrinaires intransigeants, pour qui non seulement le Verbe n'était pas Dieu, mais absolument dissemblable à Dieu. En grec, on dit « anomoios », dissemblable. Et c'est pour ça qu'on les appelait les anoméens. C'était les plus radicaux parmi les Ariens. Et puis il y avait les semi-Ariens, qui représentaient le groupe le plus considérable. Eux ne voulaient pas que le Fils de Dieu soit de même substance que le Père, il refusait l'expression « homo ousios » du concile de Nicée, mais il disait qu'il fallait poser que le Fils de Dieu était de nature semblable au Père, non pas de substance identique, mais de nature semblable au Père. Et en grec, il suffit d'ajouter un petit iota, et on a le mot qui dit exactement cela, « homoi ousios ». Si on ajoute ce petit iota, ça veut dire que le Fils de Dieu est semblable au Père, de nature semblable. Ces semi-ariens, qu'on a appelés donc les homéoussiens, regroupaient tous ceux qui cherchaient au fond un compromis, qui refusaient l'intransigeance catholique, nicéenne, mais qui reprochaient aussi aux anoméens d'être trop absolus. On dirait aujourd'hui que c'était le clan des libéraux, ni totalement catholique, ni franchement hérétique. C'est encore quelque chose qui est bien actuel. Et puis il y avait une troisième faction, l'arianisme politique, fort de l'appui de l'empereur. Cette faction se situait entre les deux précédentes. Ceux-là, qu'on a appelés les homéens, voulaient bien que le Fils de Dieu soit semblable au Père, mais pas semblable quant à la nature. Il n'était pas de nature semblable, il était seulement semblable. Vous voyez, c'est un espèce d'entre-deux. Et cette similitude, donc homoios, d'où le nom de homéen, cette similitude vague, non précisée, était bien commode. Elle autorisait toutes les interprétations qu'on voulait. Alors mes frères, vous voyez, à travers ces quelques mots rapides, bien impuissants à rendre toute la gravité de cette crise arienne qui secoua profondément la chrétienté au IVe siècle, combien l'histoire bégaye. On croirait entendre le récit de la crise actuelle. Même haine de la vérité, même faveur accordée à l'erreur, même faction fratricide, même tergiversation, même lâcheté des bons qui étaient portés à des compromis. Dieu, contre l'arianisme, a suscité un champion. Vous en connaissez le nom, c'est saint Athanase. Plus exactement, d'ailleurs, il suscita deux champions, saint Athanase et saint Hilaire. Saint Athanase en Orient, saint Hilaire en Occident. En Orient, saint Athanase, qui était le patriarche d'Alexandrie, donc un des plus importants évêques de la chrétienté, se dressa et il conduisit la lutte pendant 45 ans. Il se fit le champion du consubstantiel. Il a été calomnié, poursuivi, exilé 5 fois. On n'imagine pas toutes les souffrances qu'il a dû subir. Sur 45 ans d'épiscopat, il en passa 17 en exil. Et parfois, à l'autre bout du monde, il a été exilé jusqu'à Trèves. Saint Athanase défendit la divinité du Verbe et l'honneur de la Sainte Trinité avec une énergie indomptable, une persuasion irrésistible et en même temps une sérénité que rien ne pouvait abattre. Il était très doux, mais en même temps très ferme quand il s'agissait de la foi. Il a laissé de nombreux écrits. Il a véritablement martelé l'hérésie par un nombre d'écrits considérables, dans lesquels il expose la doctrine catholique, réfute pied à pied l'hérésie arienne et conforte ceux qui étaient restés fidèles à la foi véritable. Tous ces catholiques qui étaient persécutés par les ariens, parfois de manière physique, très sévère même. Je vous lis un tout petit extrait, d'une lettre de saint Athanase à ses fidèles. Elle vous confortera. On croirait qu'elle a été écrite pour notre époque. On pourrait presque mettre au bas de cette lettre la signature de Mgr Lefebvre. Vous savez, Mgr Lefebvre a été appelé l'Athanase de notre temps, c'est pas pour rien. Voici ce qu'écrivait saint Athanase à ses fidèles d'Alexandrie. « Que Dieu vous console. Ce qui vous attriste aussi, c'est que les autres, c'est-à-dire les Ariens, ont occupé les églises par violence, tandis que vous, pendant ce temps, vous êtes dehors. C'est un fait, ils ont les locaux, mais vous, vous avez la foi apostolique. Eux, ils peuvent occuper nos églises, mais ils sont hors de la vraie foi catholique. Réfléchissez, qu'est-ce qui est le plus important, le lieu ou la foi ? La vraie foi, c'est évident. C'est vous qui êtes heureux, vous qui restez dans l'église par votre foi, vous qui tenez fermement au fondement de la foi qui vous est parvenue de la sainte tradition apostolique. Et si, à maintes reprises, une jalousie exécrable a voulu l'ébranler, elle n'y a pas réussi. C'est eux qui se sont détachés dans la crise présente. C'est très bien dit, c'est très bien vu. C'est eux qui se sont détachés dans la crise présente. Personne, jamais, ne prévaudra sur notre foi, frère bien-aimé. Et nous croyons que Dieu vous rendra un jour nos églises. Ainsi donc, plus ils s'acharnent à occuper les lieux de culte, plus ils se séparent de l'Église. Ils prétendent représenter l'Église, en réalité, ils s'en expulsent eux-mêmes et s'égarent. Les catholiques fidèles à Dieu dans la sainte tradition, même s'ils sont réduits à une poignée, voilà ceux qui sont la vraie Église de Jésus-Christ. C'est prophétique, mais c'était déjà vrai à cette époque, et ça le reste aujourd'hui. Et puis avec saint Athanase, Dieu suscita aussi saint Hilaire de Poitiers. Lui aussi fut exilé, une fois, par l'empereur Constance, jusqu'en Phrygie, depuis Poitiers. Et comme il profitait de son exil pour amener les fidèles et les évêques d'Orient à la foi catholique, les Ariens obtinrent de l'empereur qu'il fût renvoyé à Poitiers au bout de 4 ans pour l'empêcher, dit Sulpice Sévère, de troubler davantage l'Orient. Et quels hommes de foi! Alors nous pourrions dire, mais que nous importent ces querelles anciennes, c'est fini, l'arianisme est mort, la foi catholique a vaincu, c'est vrai. Cependant, si on y réfléchit, est-ce que l'arianisme est vraiment mort? Ça n'est pas si sûr. Sans doute, si on interrogeait aujourd'hui les prélats, même les plus modernistes, au sujet de la Sainte Trinité, ils confesseraient l'unité de Dieu et la Trinité des personnes. C'est à peu près certain. Mais si l'accord se fait pour condamner théoriquement l'erreur des Ariens, il existe bien actuellement un arianisme pratique, une négation pratique de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est très répandue et qui n'est pas moins impie que celle propagée par les Ariens du IVe siècle. Cette négation pratique de la divinité de notre Seigneur, c'est d'abord celle de tous ceux qui exaltent uniquement l'humanité du Christ, sans jamais parler de sa divinité. Et c'est très fréquent, c'est même universel. Tous ceux qui opposent le Christ de l'histoire au Christ de la foi, tous ceux qui font de Jésus-Christ un expert en humanité, on a entendu ça même dans la bouche de pape. Nous avons tous en mémoire les phrases du discours de Paul VI à la clôture du Concile Vatican II, déclarant aux humanistes de ce monde que nous, les catholiques, nous avons plus que quiconque le culte de l'homme. Mais si on y réfléchit, de telles affirmations ne sont-elles pas objectivement injurieuses pour la Sainte Trinité ? L'Église peut-elle avoir un autre culte que le culte du Dieu trois fois saint. Sans doute, l'Église voit en l'homme l'image de Dieu, et surtout, elle travaille à ce que les hommes deviennent enfants de Dieu, c'est tout à fait vrai. Mais elle n'a pas le culte de l'homme. Ça, c'est une erreur, une grave erreur. Le culte de l'homme substitué au culte de Dieu, c'est Dieu mis au service de l'homme. C'est la religion vidée de tout surnaturel. C'est l'arianisme pratique. Et puis pensez à l'œcuménisme actuel, tout ce dialogue interreligieux qui prétend que nous, chrétiens, nous adorons le même Dieu que les juifs et les musulmans. Mais si ce n'est pas une négation pratique de la Sainte Trinité, cela, alors qu'est-ce que c'est ? Les juifs et les musulmans refusent la Sainte Trinité, ils refusent la Trinité des personnes, ils rejettent la divinité de notre Seigneur et du Saint-Esprit. Ils n'adorent pas le même Dieu. Leur Dieu, c'est une contrefaçon, une singerie du vrai Dieu, une invention diabolique qui n'a plus rien à voir avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob de l'Ancien Testament. Parce que c'est ça qu'on nous dit, c'est le même Dieu que celui de l'Ancien Testament. Mais non, le Dieu de l'Ancien Testament, c'était le vrai Dieu, le même Dieu que le Dieu des catholiques. Simplement, il ne s'était pas encore pleinement révélé. Le Dieu des juifs et des musulmans n'est pas du tout le même. C'est une contrefaçon. Alors, puissent ces quelques considérations nous aider à réaliser l'importance du dogme de la Sainte Trinité. Vous voyez, c'est encore très actuel. Et c'est très important pour notre vie intérieure. Il nous faut adorer, vénérer, prier la Sainte Trinité. Prenons conscience que quand nous sommes en état de grâce, la Sainte Trinité, Dieu, un et trine, habite en nos âmes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit résident en nous, Dieu vivant et vrai. Et ce Dieu opère notre sanctification. Regardez les prières de la vie chrétienne, la liturgie, toutes ces prières, même les prières privées, sont remplies d'hommages à la Sainte Trinité. On n'y fait plus attention tellement on est habitué. Le signe de croix, c'est un hommage à la Sainte Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les doxologies du chapelet qu'on chante après chacune des dizaines ou qu'on récite, gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Les doxologies des psaumes que les prêtres et les moines récitent journellement, tous les hymnes du bréviaire, toutes les conclusions de toutes les oraisons du missel, par notre Seigneur Jésus-Christ, etc., qui vit et règne avec le Saint-Esprit, en l'unité du Saint-Esprit, pardon, avec Dieu. Donc c'est bien des hommages à la Sainte Trinité. Alors tâchons d'être attentifs à toutes ces paroles, de dire ces mots avec le cœur, avec foi surtout, avec adoration, et pas seulement de bouche. À Fatima, en 1916, l'ange du Portugal, pour préparer les enfants à la visite de Notre-Dame, à la grande mission que Dieu leur réservait, a commencé par les former à la prière. Et les deux prières que l'ange a apprises aux enfants, ce sont des prières à la Sainte Trinité. Comme pour marquer, comme pour dire que c'est vraiment le fondement de notre foi catholique. Quand nous prions, c'est à la Sainte Trinité que nous nous adressons. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. C'est bien la Sainte Trinité qui est ainsi désignée. Mon Dieu, le Dieu en question, c'est Dieu un et trine. Et la deuxième prière est encore plus explicite. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présents dans tous les tabernacles de la terre en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Vous voyez comme la Sainte Trinité est présente dans toutes ces prières. Eh bien, demandons à Notre-Dame qu'elle nous fasse mieux connaître, mieux aimer la Sainte Trinité, que nous l'adorions sans cesse, que nous la prions sans cesse et que nous ayons bien conscience qu'au fond de notre âme, si nous sommes en état de grâce, Dieu est là présent et il agit pour qu'un jour nous puissions jouir de sa vision au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit.